Oui, bonjour, ici Yves Dalpé, psychologue. Nous sommes le vendredi 25 août 2023 et je vous lis partie de un extrait de mon livre L'infidélité n'est pas banale. Et nous étions rendus au sous-titre suivant, L'incroyable impact des liens affectifs sur la santé. Alors, j'y vais. Saviez-vous que les gens mariés vivent plus longtemps en moyenne que les célibataires, les veufs, les divorcés et ceux qui ne se sont jamais mariés? Et que les personnes qui manquent de relations intimes ont non seulement un plus haut taux de mortalité, mais qu'elles ont aussi plus d'accidents, ont plus de risques de tomber malade. Sans compter qu'elles sont plus vulnérables au sentiment de solitude et qu'elles ont plus de problèmes psychologiques. Parmi tant d'autres, les recherches suivantes, rapportées par le psychiatre David Spiegel en 1993, abondent dans ce sens. Dans une étude menée sur 500 adultes, l'épidémiologiste Davis de l'Université de Californie a trouvé que les célibataires masculins de 45 à 54 ans avaient deux fois plus de risques de mourir sur une période de 10 ans que les hommes mariés du même âge. Des résultats semblables ont été trouvés en analysant des taux de mortalité qui remontaient jusqu'en 1940. Les hommes célibataires, veufs ou divorcés, présentaient un taux de mortalité deux fois plus supérieur à celui des hommes mariés. Du côté des femmes, on notait 50 % de plus de décès chez les célibataires. Les plus touchés étaient les jeunes hommes divorcés et veufs âgés de 20 à 30 ans. En effet, leur taux de mortalité était 10 fois supérieur à celui des autres hommes de leur âge. Le divorce semble particulièrement nocif pour la santé. De nombreuses études épidémiologiques sur des milliers de personnes arrivent à la conclusion que les personnes des deux sexes séparés ou divorcés ont une moins bonne santé que les autres. Elles ont plus de problèmes médicaux, passagers et chroniques qui limitent leurs activités. Et cela, même en tenant compte d'autres variables comme l'âge, la race et le revenu. Face à ce genre de statistiques, on se demande parfois s'il y a vraiment un lien de cause à effet. Un nouveau champ de recherche que je trouve fascinant répond par l'affirmative à cette question. Il s'agit de la psychoneuroimmunologie. Ce champ d'étude se consacre à l'interaction entre les quatre systèmes biologiques du traitement de l'information chez l'homme, à savoir l'esprit, on réfère au fonctionnement du cerveau, le système endocrinien, le système nerveux et le système immunitaire. Autrement dit, la psychoneuroimmunologie établit des liens entre les pensées, les émotions, le système nerveux et le système immunitaire. C'est ce genre de recherche qui a contribué à changer la perspective médicale passive des germes pour une perspective dans laquelle l'individu joue un rôle actif et déterminant. Alors qu'autrefois la médecine expliquait les maladies par la théorie des germes qui envahissent le corps en le rendant automatiquement malade, une nouvelle conception basée sur les facteurs de risque biopsychosociaux s'est imposée. Selon cette nouvelle approche, nous ne sommes plus les victimes passives de méchants microbes, mais notre organisme est plutôt en constant rapport avec notre environnement. Ainsi, une multitude d'activités biologiques comme celle des neurotransmetteurs dans les cellules du cerveau des hormones du stress dans les glandes endocrines et le système nerveux et des cellules du système immunitaire réagissent à notre vécu affectif et provoquent des changements qui peuvent mener, par exemple, à des dommages aux artères, à des taux de cholestérol néfastes et à des maladies cardiaques. Prenons l'exemple de la grippe. On s'imagine généralement que l'on contracte la grippe tout simplement parce que l'on a eu la malchance de venir en contact avec des personnes infectées qui nous ont transmis leurs microbes. Cette façon de voir la maladie est aujourd'hui dépassée. En effet, il a été démontré que les virus et les bactéries responsables du rhume, de la grippe, de la congestion nasale et du mal de gorge sont omniprésents dans notre environnement et même dans notre organisme, sans nous affecter. On sait maintenant que notre corps est habité par une multitude de virus susceptibles de nous rendre malades, mais que ces micro-organismes potentiellement dangereux coexistent pacifiquement dans notre corps. D'une façon étonnante, les maladies qui en résultent sont l'exception plutôt que la règle. La psychoneuroimmunologie démontre que les virus et les bactéries ont besoin de facteurs psychologiques pour développer des maladies. On abandonne maintenant le terme de maladie psychosomatique qui faisait référence de façon restrictive à certaines maladies spécifiques parce que c'est presque toutes les maladies seraient en relation avec le vécu affectif. Pour commencer, pour continuer avec l'exemple de la grippe, des recherches américaines ont suivi une centaine de personnes réparties dans 16 familles différentes. Ils leur ont prélevé des cultures bactériennes dans la gorge de façon régulière, tout en effectuant plusieurs autres tests médicaux. Tous ces tests ont démontré clairement que la majorité des infections contractées par les membres de ces familles ne se développaient pas en maladie. Ce sont ceux qui vivaient des événements stressants, comme des examens par exemple, qui tombaient malades. La découverte la plus importante de la psychoneuroimmunologie est probablement celle d'avoir démontré scientifiquement l'importance capitale des liens affectifs pour la santé. Ainsi, les amoureux ont moins la grippe que les autres et leurs cellules sanguines combattent mieux les infections. De leur côté, McClellan, en 1967, a révélé que les personnes connaissant un haut niveau d'intimité ont plus d'anticorps et moins de maladies sérieuses, bien plus. Même les gens qui fument, ceux qui mangent trop et ceux qui ont d'autres mauvaises habitudes liées à la santé semblent moins malades s'ils sont bien entourés affectivement. De nombreuses recherches font de tels liens avec plusieurs maladies graves comme le cancer et les maladies cardiaques. Récemment, le psychologue et professeur d'université Oakley en 2004 citait deux études faites à partir d'environ 70 recherches différentes. L'une des deux analyses permettait de constater que les individus les plus entourés avaient une pression sanguine plus basse. Plus basse. Dans l'autre analyse, on concluait que les individus les plus entourés jouissaient d'un meilleur système immunitaire pour contrecarrer les cellules porteuses de tumeurs. Le lien entre la mortalité et la solitude, la santé et le réseau affectif sont donc maintenant des certitudes appuyées par la psychoneuroimmunologie. C'est pourquoi la psychologue et professeure d'université de Los Angeles, Marion Solomon, s'écriait c'est-à-dire, voyons, écrivait en 1989, deux points, ouvrez les guillemets, le plus grand danger qui nous guette dans le monde, c'est de ne pas être aimé. Toute personne a besoin des autres humains pour survivre, pas seulement pour l'obtention de services, mais pour l'amour et le sentiment d'être valable. L'importance de l'amour pour notre bien-être est bien documentée scientifiquement. Il n'y a pas que les bébés qui meurent s'ils n'ont pas de contact physique, c'est la même chose pour beaucoup d'adultes. C'est tellement vrai que James House, en 1980, a écrit: la relation entre l'isolement social et une mort prématurée est aussi forte, statistiquement parlant, que la relation entre la mortalité et le cancer et le haut niveau de cholestérol. Naturellement, il ne suffit pas d'être en relation intime pour être bien, il faut être en bonne relation. Les recherches le prouvent aussi. La maladie et la détresse psychologique accompagnent les relations interpersonnelles insatisfaisantes. Les conflits interpersonnels en général pourraient expliquer jusqu'à 80% de nos humeurs négatives quotidiennes. Quant au couple, des recherches démontrent clairement que les conflits maritaux ont un impact corrosif sur la santé, en ce sens qu'ils affaiblissent le système immunitaire des conjoints. Je me suis peut-être allongé un peu trop sur ce sujet, mais je trouve fascinant de comprendre comment nos liens affectifs sont vitaux pour notre équilibre psychologique et même pour notre santé. Or, l'infidélité risque de perturber nos liens affectifs les plus importants et ceux de notre entourage. Pas surprenant qu'une infidélité inattendue de la part d'un conjoint puisse faire plonger la personne trompée dans un état lamentable. Celui qui a trompé doit comprendre tout cela et manifester énormément de patience s'il veut reconquérir le cœur de l'autre. Alors maintenant, sous-titre suivant, les enfants aussi sont touchés. L'infidélité peut plonger toute une famille dans un désarroi imprévu. Cela peut paraître surprenant, mais selon Pittman en 1989, les enfants sont embarrassés par l'infidélité de leurs parents, même si ceux-ci s'entendent pour ne pas être monogames. C'est que les enfants se sentent menacés par ces relations qui pourraient changer leur vie. Au fond, ils ont bien raison. Leur avenir peut être très atteint par ces échanges extra-conjugaux. En plus, les secrets qui entourent l'infidélité leur pèsent lourd. Ils entendent mal, ils endurent mal les alliances secrètes avec l'un ou l'autre de leurs parents. Sans compter que les infidélités de parents doivent être gardées secrètes vis-à-vis leur entourage, ce qui les rend mal à l'aise et leur cause des tourments. De plus, ce modèle de tromperie et de méfiance leur est transmis. Ils sont susceptibles de répéter ce qu'ils ont appris. Toujours selon Pittman en 1989, les enfants ressentent le climat négatif généré par l'infidélité de leurs parents. Ils peuvent y réagir par une baisse dans le rendement scolaire, par de la mauvaise humeur, par de l'insomnie, par des cauchemars, etc., sans que personne comprenne ce qui se passe pour eux. Et j'ai déjà été témoin du fait que certains de ces enfants ont parfois des idées suicidaires. Aussi, la rébellion d'un adolescent trouve parfois sa réelle explication dans l'infidélité d'un parent. Souvent, les enfants sont amenés à former une alliance avec l'un des deux parents. Ils sont mal à l'aise avec cela. L'aîné d'une famille, par exemple, peut se sentir obligé de protéger sa mère contre son père, devenu le méchant loup de la famille. Et la mère peut le prendre pour confident, ce qui est très malsain, car l'enfant perd ainsi la confiance et l'admiration de son père. Dans d'autres cas, le parent infidèle confie à un enfant sa relation extra-conjugale connue du conjoint, c'est-à-dire inconnue du conjoint, bien sûr. L'enfant est alors aux prises avec un secret qui le fait se sentir hypocrite et traîne et traître envers le parent opposé, tout en étant déçu, évidemment, du parent infidèle. Les enfants ont besoin de croire que leurs parents sont plutôt des modèles d'honnêteté et de consistance. Ils ont beaucoup besoin de parents qui les placent dans un environnement affectif sécurisant et qui leur transmet le modèle sécurisant d'une sexualité réservée aux liens intimes conjugaux. Pour toutes ces raisons, il n'est pas recommandé de révéler aux enfants l'existence d'une infidélité à moins de circonstances particulières, par exemple, s'ils risquent de l'apprendre par d'autres personnes. Quand la tension est devenue évidente dans le couple à la suite d'une infidélité, il est préférable de dire à ses enfants qu'on a des problèmes conjugaux intimes que l'on s'occupe activement à régler. Alors, sous-titre, faire de la peine à Jésus. On le voit bien, la découverte d'une relation extra-conjugale a le pouvoir dramatique de générer énormément de souffrances chez le conjoint, les enfants, la famille étendue, les amis et bien entendu les acteurs eux-mêmes. Toute une famille peut être secouée par cette situation supposément secrète que quelqu'un pensait vivre sans nuire à personne pour son seul plaisir. Ce n'est donc pas par principe religieux qu'on pense à deux fois avant de se laisser aller. Ce n'est pas pour éviter de faire de la peine à Jésus, comme on nous disait dans notre enfance. C'est pour éviter de faire souffrir ceux qu'on aime. Mon but, en tenant ce langage, n'est pas de faire la morale à qui que ce soit. J'ai trop de respect pour mes clients aux prises avec toutes sortes de démons. Et j'ai expérimenté moi-même la liberté sexuelle dans une relation conjugale antérieure. Ma perspective est plutôt de présenter la réalité telle qu'elle est, au-delà de nos fantasmes et de nos illusions. D'autre part, tout cela est infiniment complexe et les motivations à l'infidélité sont aussi complexes, comme nous le verrons plus loin. Je n'ai ni l'intérêt ni le désir de jouer les redresseurs de conscience. J'ai plutôt le désir profond d'être utile en aidant mes clients et mes lecteurs à explorer leur univers sans complaisance. Également, et cela est paradoxal, autant il peut paraître cruel comme société de permettre aux gens de se faire mal les uns les autres en se trompant, en s'abandonnant, en détruisant leurs liens familiaux, autant cette liberté m'apparaît comme un cadeau bénéfique que nous nous offrons comme société. En effet, je suis convaincu que nous sommes tous gagnants dans cette possibilité de faire, défaire et refaire nos liens intimes et familiaux, malgré les souffrances que cela nous fait vivre. J'aborde cette question dans le dernier chapitre de ce livre. Il n'est pas plus correct de lapider les femmes infidèles que de brûler les homosexuels. L'ouverture d'esprit et la tolérance sont de précieux acquis de nos sociétés. À chacun de mesurer les conséquences de ses décisions personnelles et en matière de relations amoureuses. Il existe des situations où l'infidélité est plausible et même salutaire, où il est préférable de faire de la peine à Jésus, comme on disait. La vie est très complexe. Alors, voilà, chers auditeurs, c'est la fin pour cet épisode. Lors du prochain épisode, qui aura lieu dans environ 2 semaines, j'aborderai le chapitre 3 qui s'intitule « La gestion de la crise ». Alors, c'était Psycho Balado avec Yves Dalpé, psychologue. Vous pouvez en savoir un petit peu plus sur qui je suis en allant sur mon site internet www.dalpecote.com. Au plaisir de se revoir. Ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, au plaisir de vous retrouver en tant qu'auditeur.